En effet, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Prions ensemble. Merci Seigneur pour tous les dons que tu nous fais. Et merci pour le don de certains serviteurs que tu as suscités, que tu as rempli des compétences et de toutes les capacités voulues pour qu'ils exercent leur ministère. Nous te louons pour ce dont nous bénéficions. Et nous te demandons que nous sachions pendant cette heure te plaire par le regard que nous allons jeter sur deux hommes dont tu t'es servi. Veuille nous donner à chacun de te servir aussi à la place que tu nous as réservée. C'est au nom de Jésus et en comptant sur ta grâce que nous te prions. Amen. Billy Graham et John Stott sont sans doute les deux prédicateurs évangéliques les plus célèbres, dont le mot de célébrité, dans mon titre, les plus célèbres du XXe siècle. En tout cas, en ce qui concerne le monde évangélique axial, classique, principal, il est possible qu'il y ait eu certains leaders charismatiques qui, parmi les charismatiques, et ils sont nombreux, étaient encore plus célèbres que John Stott. Billy Graham, lui, a été universellement connu, mais je pense que pour les évangéliques que représentent, par exemple, l'Alliance évangélique mondiale, ce sont les deux qui ont été les plus représentatifs. Le sociologue historien Sébastien Fatt dit que Billy Graham correspond par la notoriété, par l'influence, le rayonnement au pape Jean-Paul II, ce que Jean-Paul II a été pour les catholiques. Et le New York Times, qui est quand même un très grand journal, le 30 novembre 2004 disait, dans un article, que si les évangéliques élisaient un pape, c'est John Stott qu'il pourrait élire. Vous voyez la comparaison pour l'un et l'autre, et c'est faite avec les plus grandes célébrités du monde religieux. Il y a ce trait qui les rapproche, et il y en a d'autres aussi, que je fais allusion à quelques-uns d'entre eux avant de vous broter un portrait, de vous raconter la vie de l'un et de l'autre, et d'autres traits pourront apparaître encore qui les rapprochent. Je pense que il y a eu chez l'un et chez l'autre, outre l'influence internationale qu'ils ont exercée, les innombrables voyages qu'ils ont faits sur tous les continents, il y a eu un attachement très ferme à l'Écriture sainte. Affirmation sans aucune réserve de son inhérence, que la Bible est sans erreur. Il y a eu aussi, chez l'un et chez l'autre, une assez grande ouverture qu'on appelle écuménique. Ils ont assisté, et pour John Stott participé, à des réunions du Conseil écuménique des Églises, mais sans aucun compromis. Et précisément, c'est la voix des évangéliques que John Stott a fait entendre dans une telle arène. Et l'un et l'autre ont beaucoup contribué à l'écuménisme évangélique, à rapprocher, à conduire à collaborer les évangéliques entre eux. Ils étaient de la même génération, juste 2 ans d'écart, comme je vais le dire, et ils ont collaboré étroitement. Je vais vous parler des grands congrès qui ont été rassemblés sous leur égide et par leur impulsion. Or, c'est ensemble qu'ils ont œuvré pour cela. Donc, c'est une raison de plus pour les considérer ensemble. Alors, il y a une petite raison, on pourrait dire marginale, anecdotique, mais il se trouve que j'ai eu le privilège de les connaître personnellement l'un et l'autre. Alors, John Stott beaucoup mieux que Billy Graham, Mais malgré tout, Billy Graham aussi, j'ai pu l'approcher. Je lui suis très reconnaissant pour des paroles d'encouragement qu'il a dites en public à mon endroit, hein, lors de ce qu'on a appelé le mini-congrès francophone, juste avant le grand congrès de Lausanne en 74. Donc, voilà, j'ai eu ce rapport et ensuite dans le comité de continuation après Lausanne. Donc, je l'ai un peu connu. Et, dans ce alors, beaucoup plus étroitement, je dis facilement qu'un de mes titres de gloire, c'est que j'ai fait la vaisselle avec lui dans son petit appartement. Et donc, Johnson aussi. En même temps, il faut souligner des contrastes entre les deux. Le contraste entre le fils de fermier américain et le fils d'un grand médecin de la caste supérieure, pourrait-on dire, de l'Angleterre traditionnelle à Londres, c'est là un contraste assez fort. Un circuit, ou plutôt un itinéraire de scolarité tout à fait différent. Pour Billy Graham, ça a été assez long et peut-être un peu difficile au début, alors que John Stott a remporté d'emblée des prix dans le système de la strate supérieure de la société anglaise et de ces grandes écoles dites public schools, mais qui ne sont pas publiques précisément, qui sont privées. Donc vous avez ce grand contraste. Vous avez le contraste aussi entre l'anglican et le baptiste. C'est quand même aussi une différence assez sensible. Une différence quant au public qu'ils ont principalement servi. C'est vraiment le grand public de masse pour Billy Graham. C'est davantage le public des étudiants, des pasteurs, que John Stott a réuni et a davantage influencé. Donc, là aussi, il y a des écarts qui sont assez significatifs. Alors, je commence par William Franklin Graham. Son nom dit Junior, normalement. Alors, vous savez que Billy, c'est Bill ou Billy, c'est le diminutif de William en anglais, donc on l'appelle Billy, mais il avait un nom donc un peu plus long. Première tranche de sa vie à vous raconter, de l'étable à la présidence d'université, en tout cas des grandes écoles. Il est né en novembre 1919 dans une famille de fermiers assez aisés et prospères en Caroline du Nord. Donc, ce n'est pas sur la côte même qu'il est né, mais près de la ville de Charlotte, qui est à l'intérieur des terres. Sa famille, des deux côtés, je crois, était descendante d'Écossais qui avaient émigré longtemps avant, aux États-Unis, un grand-père qui avait fait la guerre de sécession dans l'armée des Confédérés, l'armée du Sud. Ils étaient réformés, une piété qu'on pourrait dire ordinaire. Sa mère, peut-être, de manière plus vive que son père. Comme gamin, il a été plutôt facétieux, paraît-il. Il a beaucoup travaillé dans la ferme avec frères et sœurs, et c'est ce qui l'a sans doute protégé de faire des bêtises trop graves, parce que il était sous une discipline assez ferme. Quant aux études, il s'y appliquait guère. Je vous ai dit tout à l'heure que, oui, pour les études, ça avait été un peu long, mais oui, comme adolescent, il préférait, dans les rares moments libres que lui laissait le travail que ses parents lui confiaient, il préférait aller jouer. Il était très très beau gosse. Et donc il devait sans doute aussi faire vibrer quelques cœurs, mais tout cela était maintenu dans de bonnes limites. Et c'est en 1935, lors d'une série de réunions d'évangélisation ancien style, avec un prédicateur qui s'appelait Mordecai Mardoshi Ham, qu'il s'est converti. été saisi par le message, et il a changé, même, avec un très grand zèle pour faire part de la vie nouvelle, mais il avait presque 16 ans à ce moment-là. Il a terminé les études secondaires de ce système américain, et en 36, donc, à la rentrée 36, parce que sa mère avait entendu parler de cette école, il est devenu élève dans l'école de Bob Jones, qui était un prédicateur assez fameux, prédicateur évangéliste, Bob Jones. Il y avait le senior et le junior, d'ailleurs, dans cette famille des Bob Jones. Une école qui existe toujours, mais qui, à l'époque en tout cas, était assez effarante. Ça tenait de la caserne. Une discipline effarante quant à la manière de vivre, et aussi un système doctrinal assez rudimentaire, mais absolument imposé. Aucune discussion possible. Ça, c'était le style de Bob Jones. Et Billy Graham n'y a pas tenu. Et dès janvier, il n'a pas voulu continuer dans cette école de Bob Jones. Bob Jones, par la suite, a été l'un des grands critiques sur sa droite, hein, de Billy Graham, qu'il considérait comme beaucoup trop laxiste, beaucoup trop écuménique. Et donc, Bob Jones, sans doute, a ressenti avec une certaine amertume que ce jeune Billy le quitte après quelques mois, première année, et il a continué donc dans un institut public en Floride, à Tampa, en Floride, et là, alors il a fait des études très heureuses, hein, il a été vraiment très très content dans cet institut public, et il y a appris beaucoup de choses, il a subi des influences très fortes, il s'est ouvert, il a découvert une certaine diversité évangélique. Et en particulier, il a découvert la doctrine baptiste. Il est devenu baptiste, et en 39, donc, il s'est fait baptiser sur profession de foi. Il est donc devenu baptiste à ce moment-là. On a commencé à le faire parler un peu, il était effroyablement timide et gêné, il se sentait totalement inadéquat pour parler. Mais quand même, les gens qui étaient avec lui le poussaient, le forçaient presque à parler. Et apparemment, ça avait déjà de l'impact. De toute façon, c'était sa personnalité. Il y a un de ses camarades à l'Institut de Tampa qui dit « C'est incroyable. Dans une foule, Billy Graham arrive, justement dans la foule, tous les regards se portent sur lui. Et moi, je peux marcher sur les pieds des gens, je peux les prendre par le menton, personne ne me remarque. » C'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui ont un rayonnement qui attire les regards, et à coup sûr, c'était un don du jeune Billy Graham dès ce moment-là. Alors, on le fait parler comme ça de temps en temps dans des réunions ici ou là, et là, des gens qui sont de la famille du président de Wheaton College le remarquent et disent il faut que ce gars-là il fasse plus qu'un institut, il faut qu'il aille au-delà. Alors, Wheaton College, c'est une institution qui avait déjà pas mal de prestige à l'époque, mais qui se situe plus au nord des États-Unis. C'est pas le sud comme la Caroline de Billy Graham. C'est près de Chicago, donc sur le bord des Grands Lacs, et c'est donc le collège où j'ai eu pendant 5 ans donc une chaire à occuper. Donc c'est bien avant que j'y aille, bien sûr, que Billy Graham il a été admis avec une bourse, et il espérait pouvoir entrer en deuxième année parce qu'il avait fait l'institut public, mais non, il n'était quand même pas tout à fait de niveau, donc il a fait 4 ans. 4 ans à Wheaton College, ce qui l'a beaucoup marqué et a élargi ses horizons, sans aucun doute. Il n'a pas fait, alors il a eu des cours de biblique et théologie quand même, parce que tous les étudiants en ont, mais sa dominante, c'était l'anthropologie. Parce qu'à l'époque, il pensait pouvoir faire de la théologie peut-être après. Dans le système américain, c'est ce qu'on appelle faculté de théologie seminary, c'est après le collège qui est déjà au niveau universitaire. C'est comme ça que les choses s'étagent dans le système américain. Il penser à cela. Alors il n'avait pas, il avait une bourse pour commencer, mais pour subvenir à ses besoins, il est devenu en même temps, pendant ses études à Wheaton, pasteur d'une église. Une église qui s'appelait le Tabernacle, à Wheaton. Alors, elle n'était pas baptiste, elle était indépendante, mais je pense que la dominante était baptiste. Billy Graham avait une identité baptiste tout à fait nette. Donc, pendant ses études, il a été dans cette ville de banlieue, résidentielle, que j'ai un peu connue, donc. Et à cause de ce lien, d'ailleurs, un bâtiment a été construit avec un musée Billy Graham, et un bâtiment tout entier s'appelle Billy Graham. Bâtiment Billy Graham, c'est là que j'avais mon bureau et que je donnais mon enseignement quand j'y étais. Donc, il fait ses 4 ans d'études au Wheaton College. Il y rencontre une jeune fille. Laura Tampa, il avait été amoureux, mais la fille avait finalement préféré un autre étudiant. Donc, il rencontre à Wheaton une jeune fille qui est la fille d'un missionnaire, d'un médecin missionnaire en Chine, qui est elle-même née en Chine, y a passé son enfance, Ruth Bell, et c'est l'amour entre les deux, et ils se marient, donc à la fin de ses études, et elle va énormément compter pour son ministère. Je crois vraiment qu'on doit dire que sans elle, Billy Graham n'aurait pas eu le ministère qu'il a eu. Elle a été vraiment remarquable. Et d'influence théologique comprise. Et puis, le beau-père aussi. Le beau-père, il avait bien sans doute, mais on connaît surtout le beau-père qui a été une personnalité importante de retour de Chine pour le monde évangélique américain. Il a été le cofondateur de la revue Christianity Today, une revue très importante, tirant plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Voilà, le beau-père de Billy Graham a aussi beaucoup compté. Et si la maison de Billy Graham finalement s'est retrouvée en Caroline du Nord à Montreat, je ne sais pas si prononce Montreat, Montreat, je ne sais pas, ça s'écrit Montreat, c'est parce que les Nelson Bell s'y étaient installés. Et c'est là qu'est le port d'attache par la suite de Billy Graham. Alors, après la fin de ses études, c'est encore la guerre, mais il accepte d'être le pasteur d'une église baptiste, pas loin de Wheaton, une autre ville de la banlieue, et donc il a un temps de ministère dans une église baptiste à ce moment-là. Alors les choses sont assez contradictoires. D'une part, il a certaines difficultés, parce qu'il est presque toujours parti. Disons qu'il est tellement zélé pour l'évangélisation et invité si souvent en dehors de son église que certains se plaignent. Bon, je dis presque toujours, c'est quand même, j'exagère, mais il est là très très pris. Sa passion, c'est l'évangélisation. Mais d'autre part, l'église grandit, elle liquide une vieille dette qu'elle avait parce que là, la vie de l'Église, on connaît un développement remarquable. Alors, parmi les invitations qu'il reçoit, il y a celle qui concerne un mouvement nouveau de l'après-guerre qui a été, suscité par le besoin que les jeunes Américains appelés sous les drapeaux représentaient. Certains se sont dit, mais ces jeunes, ils sont un peu perdus, ça ne va pas. Il faut les évangéliser. C'est un mouvement qui s'est appelé Jeunesse pour Christ. Il s'est créé à ce moment-là. Alors, il est devenu mondial, c'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui un mouvement Jeunesse pour Christ en France, mais il a commencé aux États-Unis avec un certain Johnson, et Billy Graham a été associé très très vite. Et on lui a demandé d'être vice-président, et beaucoup de ces réunions qu'il faisait, c'était des réunions pour Jeunesse pour Christ. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il est venu pour la première fois à Paris. Il est venu pour la première fois à Paris, il y a eu quelques personnes pour m'entendre. C'est mon père qui a organisé la réunion au bon foyer de Belleville, dans le 20e. Mon père était en contact parce que il était en contact avec Jeunesse pour Christ et d'autres contacts encore. Alors qu'il était pour Jeunesse pour Christ et que finalement il a quitté l'Église pour se consacrer entièrement à ce ministère, un vieux lion du mouvement évangélique américain qui avait combattu au temps du fondamentalisme, William Riley, qui avait fondé plusieurs écoles très prospères à Minneapolis, dans le Minnesota, plus au nord, ce Riley, voyant la fin venir pour lui, a visé Billy Graham pour lui succéder comme président de ces Northwestern Schools, donc un ensemble de types universités. Il a dit, c'est ce jeune homme qu'il faut. Alors, il avait très peu de titres pour devenir ainsi le président, et il a résisté pendant très longtemps. Il disait non, mais alors, il a tellement insisté que finalement il a cédé. Et donc il est devenu, je crois que c'est en 47, je l'ai noté quelque part, il est devenu, tout en restant très actif avec Jeunesse pour Christ, il est devenu le président de cet grand ensemble de formation de niveau universitaire à Minneapolis. Vous voyez le monde, la situation de l'étable, de la ferme familiale, jusqu'à ce poste qu'il a occupé, tout en dépensant beaucoup de son énergie dans des réunions essentiellement de Jeunesse pour Christ. Et mon père avait fait ses études américaines dans ces écoles Northwestern. Donc il était un ancien étudiant pour cet institut public que comprenaient ces écoles, d'où le contact. Mon père, revenu de captivité, c'est ainsi que s'est établi le lien et que mon père est aussi devenu l'interprète de Billy Graham en français. Ce qui, je crois, inclinait Billy Graham à être si bienveillant à mon égard, hein, c'est parce qu'il connaissait mon père. Billy Graham joue ce rôle pendant la fin des années 40 et on lui demande d'organiser une grande campagne d'évangélisation à Los Angeles. En 1949, donc c'est une campagne d'évangélisation qui est prévue pour 2 ou 3 semaines, elle va durer 2 mois. Ils vont prolonger. C'est un phénomène absolument incroyable. Ça, c'est la deuxième grande phase. Quelque chose de prodigieux dans cette campagne d'évangélisation à Los Angeles. Là où on compte habituellement en centaines de personnes, c'est en dizaines de milliers. Bon. C'est un mouvement extraordinaire qui se produit, qui se prolonge, avec des gens qui se décident. Donc il y a des centaines de milliers de gens qui écoutent l'évangile prêché par Billy Graham à ce moment-là. Et c'est le début d'un mouvement qui va finalement durer jusqu'au moment où la vieillesse sera trop marquée pour lui, pour qu'il continue, mais il a continué à faire des campagnes que, un peu après, ils ont commencé à appeler croisades pour distinguer des campagnes d'évangélisation ordinaires, c'est venu un peu après qu'ils aient appelé cela croisade. Aujourd'hui, ça ne peut plus se dire, hein, avec le problème de l'islam. C'est le terme qui a été employé. Il va faire des croisades jusqu'à un âge avancé, mais c'est surtout pendant une quarantaine d'années, à partir de 49, hein, que la plupart des grandes croisades vont se dérouler, et le mouvement est stupéfiant pendant les 20 premières années. C'est là que c'est un essor. Tous les chiffres de Los Angeles sont assez vite dépassés ailleurs, à Boston. Puis alors, en 54, c'est le prodige à Londres. À Londres, dans les stades, alors qu'on pense qu'un Américain, ça n'a aucune chance, à Londres, parmi les Anglais, bon, il a travaillé son accent même. Je me rappelle qu'on m'a dit à l'époque. Mais quand même, et c'est une secousse prodigieuse pour tout le monde anglais à ce moment-là. Ils débordent sur d'autres pays qui ne sont pas de langue anglaise, et en 55, c'est pas pareil. C'est au Veldiv, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est la grande campagne initiale, la première croisade où il a parlé par interprétation, d'ailleurs. Donc, associé à mon père. Parce que j'ai lu dans, là, j'ai eu, voilà, j'ai une biographie partielle, parce que est écrite bien avant qu'il soit très, très vieux, de Billy Graham, voilà une mention qui est faite. Et ça continue, donc mondialement, partout, en Asie, en Afrique, il fait des campagnes, des croisades, qui attirent des centaines de milliers de gens. Il est probable que si on cumule tous les chiffres de participation, bien sûr, c'est les mêmes personnes souvent qui reviennent, hein, mais on dépasse les 200 millions pour l'ensemble de sa vie. C'est quelque chose d'inouï. Alors, parmi les traits originaux de ce ministère de Billy Graham, j'essayais de les repérer. Il y a d'abord la constitution d'une équipe. C'est Billy Graham qui est le prédicateur, mais très vite, très tôt, il a constitué une équipe extrêmement douée, avec plusieurs d'ailleurs, qui étaient des compagnons de son adolescence. C'est une équipe extrêmement soudée, mais il y a eu des talents suffisants, en particulier Grady Wilson, avec son frère T.W. Wilson, pour lequel j'ai été moi interprète lors de la campagne de 63 à Nancy. J'ai eu à le traduire. Puis alors, surtout, Cliff Barrows, qui conduisait la chorale et qui organisait beaucoup de choses, qui était vraiment un chef d'état-major pour Billy Graham, avec Wilson, dans l'organisation de ces grandes campagnes. Puis alors un chanteur, avec une voix magnifique, un homme rayonnant, Beverly Shea, qui était un chanteur professionnel, hein, qui avait une basse, un velours, vraiment remarquable. Et puis, Billy Graham a eu la sagesse d'adjonction sur l'équipe. S'est enrichi au fil des années, très bien choisi, ça veut dire exact, très bien choisi les collaborateurs. Une équipe qui a bien fonctionné tout au long de sa vie. Deuxièmement, un usage de la publicité. Je pense qu'avant lui, en tout cas pour nos pays, il n'y avait pas eu un usage aussi fort de la préparation publicitaire. D'où l'intérêt des médias, d'où un retentissement. Cela, il a su le maîtriser. Troisième trait, il exigeait que les églises du lieu où il était invité s'unissent pour l'inviter. Et là, c'est largement. C'est là qu'il y a eu un élément œcuménique qui a été fortement blâmé par d'autres, parce qu'il ne se cantonnait pas aux seuls évangéliques quant au comité d'invitation. Il voulait toucher très large, et donc il a touché très large. Je me rappelle qu'en 1955, en Veldiv, le président de la Fédération protestante, le pasteur Marc Bonner, était là, a dit quelques mots, voilà, vous voyez, c'était une des conditions pour que les campagnes aient l'immense effet qu'elles obtenaient. Et puis, alors, ça s'était très progressivement, à partir de constats d'insuffisance au début, une organisation du travail de suite, et une organisation du travail de suite faite à l'avance. Formation de conseillers pendant des mois auparavant, une énorme machine de préparation spirituelle aussi bien que doctrinale, etc., pour des conseillers, et ensuite un suivi de ceux qui s'avançaient lors des réunions. Ça, c'est, je pense qu'avant Billy Graham, personne n'avait mis sur pied un système aussi ferme, etc. Et puis, dernier trait que je relève, ajoute progressivement d'autres médias. Ça a commencé par des grandes croisades, Los Angeles 49, etc., mais très vite un programme radio. L'heure de la décision qui a été suivie par des millions et des millions et des millions. Et puis ensuite, il est passé à la télé. Télévision, Billy Graham. Et puis, il a écrit des livres. Il a lancé un magazine. Donc, il a joué sur tous les registres en ce qui concerne donc le rayonnement de son ministère. Les films aussi. Production de films. Tout cela, donc, a été très caractéristique du ministère de Billy Graham. Alors, je note qu'il y a eu un moment de crise, parce qu'un de ses associés du début, qui s'appelait Tarantino, qui était vraiment un ami proche pour lui, a décidé de poursuivre des études de théologie dans une faculté non évangélique, et la faculté de Princeton dont je vous ai parlé, je crois, et a commencé à dire, mais non, tu peux pas continuer à communiquer. Tu peux pas en rester à cette vieille façon de lire l'écriture, croire qu'elle est sans erreur, etc. Et Billy Graham a été réellement tenté, là. Il y a eu un moment de crise, et il a fini par le résoudre dans un rapport à Dieu en disant que même s'il n'avait pas les solutions à tous les problèmes, il se soumettait à l'autorité de la parole, il lui faisait entièrement confiance. Et c'était un élément très important aussi à ses yeux, il dit, disons, du ministère qui lui était confié et de l'efficacité de ce ministère. Alors, quelques traits saillants, parler de traits saillants. Rôle mondial. Non seulement ces réunions sur tous les continents, mais aussi un ministère auprès des grands de ce monde. Aussi, ça a été très caractéristique de Billy Graham. Il a été consulté par tous les présidents des États-Unis, sauf peut-être Trump, je ne sais pas, je pense que, comme il était tellement âgé, je ne sais pas. En tout cas, Trump était à ses obsèques. Même le président actuel, malgré son style de vie, était présent. Mais depuis Truman, le président donc à l'issue de la guerre, tous les présidents des États-Unis, et puis beaucoup d'autres grands de la Terre, il a vu Churchill, il a vu Jean-Paul II, il a eu des entretiens avec Nehru en Inde, vraiment un très grand nombre d'entre eux. Et apparemment, plusieurs ont témoigné du fait qu'il leur parlait de questions spirituelles. Il engageait un rapport de témoignage. Alors que il n'en avait pas du tout l'habitude. Et plusieurs en ont été vivement reconnaissants. Parce que même quand ils rencontrent des hommes d'église, c'est pour parler de problèmes liés au statut des églises, à la loi, etc. Et donc, ils n'ont pas l'occasion d'une véritable interpellation. Alors, ils ont été assez habiles pour le faire d'une manière qui passait. Mais il les a touchés. C'est quelque chose de remarquable. Et puis alors, l'autre façon dont il a eu un rôle mondial, c'est à partir de Berlin en 66, la convocation de grands congrès internationaux qui ont marqué l'histoire du monde évangélique et créé ce qu'on a appelé le mouvement de Lausanne. Le premier congrès, donc c'est à Berlin, Yannick y a participé, elle était présente dans le secrétariat, mon père y avait été invité, moi je n'y suis pas allé au congrès de Berlin, mais il a été très très important, et avec des personnalités aussi, comme l'empereur d'Éthiopie à l'époque, Haïlé Sélassié, après qu'il avait fait une campagne d'évangélisation en Éthiopie. L'empereur a été touché. Et au départ, il avait demandé à l'empereur de pouvoir faire cette campagne, et l'entourage avait subtilisé la lettre de demande. Mais il y avait un évangélique homme d'affaires qui devait rencontrer Haïlé Sélassié, qui lui a dit. Et du coup, il a rencontré Billy Graham, donc on a reçu Billy Graham, la campagne a eu lieu, et ce lien a été créé, et qui a abouti à la présence d'Haïlé Sélassié dans ce congrès de Berlin, 66. Et puis, il y a eu un congrès préparatoire pour les Européens en 72 à Amsterdam, auquel j'ai participé. Et puis, alors, le grand congrès qui a donné son nom à ce mouvement, le congrès de Lausanne en 74, que j'ai eu le privilège aussi de parler. Et donc, il y a eu tant d'effets, tant d'impact, que c'est Billy Graham qui était la figure qui rassemblait. Ce que le mouvement, appelé mouvement de Lausanne, en a procédé avec un comité d'abord, puis tout, et alors deux autres congrès, depuis, en 89, un nouveau congrès Lausanne 2, mais aux Philippines, à Manille, et un troisième congrès au Cap, en Afrique du Sud, en 2010. Oui. Donc, vous avez un mouvement qui a continué et continue jusqu'à ce jour, et son origine a été dans le ministère de Billy Graham. Alors, très saillant de sa personnalité, bon, certainement ce rayonnement, la capacité de saisir son auditoire, de s'emparer de son attention, de la retenir, et de faire pénétrer sa parole jusqu'au cœur des gens. C'est vraiment très étrange, et c'est très très fort. Hein. Et parce qu'il n'a pas l'éloquence classique. On peut dire une éloquence qui se moque de l'éloquence, selon l'expression de Pascal. C'est des petites phrases mitrailleuses. C'est pas du tout l'éloquence classique. Sa voix même est très forte. Elle subjugue, mais elle n'est pas belle. C'est pas les voix d'airain ou de velours, des grands tribuns de l'histoire de l'éloquence. Mais voilà, un pouvoir de saisir le public, et avec une rapidité de réaction et un humour. J'ai lu là dans la biographie d'une fois, il y a un auditoire qui est essentiellement fait de jeunes, d'étudiants, à l'époque 68 ans. Hein. Et ils ont envie de faire du chahut, quand ils peuvent commencer à parler, ils crient tous sexe, sexe, sexe. Voilà. Et il reprend la balle au bon en disant « Oui, oui, c'est très important, sans le sexe, aucun de nous ne serait là aujourd'hui. » Éclat de rire de tous, et ça y est. Il a saisi l'auditoire, et il peut parler. Incroyable, cette aptitude qu'il avait. Je pense que c'était un de ses très très grands dons. Il se préparait beaucoup aussi. Et il travaillait, des heures pour les messages. C'était pas simplement de la facilité, mais simplement de la répétition. Et il faisait grand usage des citations qu'il collectionnait. Et puis alors, une incroyable dépense de lui-même. Il devait changer de chemise après avoir parlé. Elle était complètement trempée. C'était... Et il a été, dont je ne m'étais pas rendu compte, en lisant la biographie, il a été quand même malade plusieurs fois. Plusieurs fois au bord, alors une ou deux fois il a dû annuler sa prédication, j'ai dit Wilson, mais il se donnait tant. Et Ruth, sa femme, avec les enfants, elle a dû supporter tout ça aussi, et l'a fait. Et puis alors, dernier trait que je mentionne, parce qu'il m'a frappé à son contact, hein, c'est l'humilité. Je l'ai entendu dans le comité de Lausanne, vraiment, vraiment parler très humblement, souligner le manque de formation qui était le sien. Il le reconnaissait tout à fait. Il ne jouait pas la comédie, hein, c'était très simplement. Dans le petit cercle du comité que nous constituions, je me rappelle des paroles spécialement à Atlanta, lorsque nous sommes réunis à Atlanta. Donc, remarquable. Alors maintenant, je passe à John Stott. John Robert Wolseley Stott. lui, je J'ai choisi comme sous-titre pour mon premier point, première tranche de vie, de Harley Street à All Souls. Alors là, j'espère ne pas vous embarrasser. Harley Street, c'est un peu comme au temps du Moyen-Âge, il y avait des rues pour une corporation donnée. C'est la rue des médecins les plus célèbres, les plus huppés à Londres. Être médecin à Harley Street. Et c'est ce qu'est son père. Son père qui est agnostique, n'est pas croyant. À All Souls, c'est-à-dire toutes les âmes, All Souls qui est le nom de la paroisse qui a été la sienne. Les deux à Londres, Harley Street à Londres, la paroisse en Sauve à Londres. Voilà les deux bouts d'un itinéraire numéro un. Donc, il naît dans cette famille. Alors, sa mère a subi une influence luthérienne forte. La mère de John Stott est pieuse, mais elle fréquente avec lui une église anglicane. Alors, il fait les écoles les plus prestigieuses, y compris l'école. Vient le nom du rugby, hein. C'est dans cette école de la classe plus élevée en Angleterre qu'on a pratiqué, qu'on a inventé le rugby. C'est là qu'il est étudiant dès 1935, il est en 1921, donc 14 ans. Puis ensuite, c'est Cambridge qui est son université et il remporte de très grands succès scolaires, en particulier en français. Moi, je n'ai jamais parlé français avec lui, mais j'ai pas envie, mais je pense qu'il en aurait été capable. En tout cas, il avait fait des études de français universitaire poussé, allemand aussi. Son père voudrait qu'il devienne diplomate. Mais voilà qu'il se convertit en février 38, grâce tout spécialement au ministère d'un travailleur parmi les jeunes. Lié à la libre de lecture de la Bible. Un certain Eric Nash, qui est surnommé Bash, qui va avoir une influence capitale pour le jeune John Stott. C'est un homme qui n'est pas très cultivé, très raffiné, mais qui a un don vraiment pour les jeunes, qui organise des camps et qui vraiment les marque. Et ce Bash va façonner le christianisme du jeune John. Il va le prendre comme assistant aussi dans l'organisation de ses camps, peu après sa conversion. Donc, Johnson va être vraiment très marqué par ce Bash qui est des assemblées de frères, lui. Il n'est pas anglican. Mais John, lui, reste anglican. Il fait des études de théologie à Cambridge. Là, il a des professeurs fameux, mais il résiste, il reste là, fermement évangélique, et il est finalement ordonné en 45, et il devient donc assistant, il deviendra le pasteur en titre. C'est le titre recteur dans le système anglican de cette grosse paroisse qui est une paroisse évangélique à All Souls, au cœur de Londres. Et la première tranche de son ministère, donc à partir de 45, se déroule dans cette paroisse, mais très vite il est appelé à intervenir comme orateur, en particulier dans les groupes GBU. Ce que nous appelons GBU, le mouvement s'appelle à l'époque Intervention, puis il a changé un peu de nom encore ensuite, mais c'est ce que nous appelons les GBU. Il est orateur favori des GBU, diverses universités, il a le style universitaire en Angleterre, et à All Souls, il devient le pasteur principal. En 50, il est connu comme ce qu'on appelle en anglais expositeur biblique, un style de prédication dont il sera vraiment un prince. Excellent, le style qui suit le texte biblique. Généralement, le suit dimanche après dimanche un même livre. On appelle ça l'expository preaching. qui combine l'explication, vraiment essayer de voir quel est le sens du texte, et l'application. C'est en même temps un trait pratique. Il est le prince de l'expository preaching. Et moi-même, quand j'étais étudiant à Londres en 1956, j'ai été dans c'était plein dans cette grande église de Rousseau à l'époque. J'ai pas été très souvent, mais j'ai quand même été. Là, je n'ai pas fait connaissance avec lui, hein, personnellement. J'étais simplement étudiant pendant cette année-là. Mais donc, il se fait connaître comme cela, et aussi dans une convention, la convention fameuse de renouveau spirituel à Keswick, dont il corrige déjà certains traits de piété. Si vous avez des questions, je pourrais vous répondre, mais là, il faut que j'avance. Et il publie en 58 un premier livre qui aura un succès phénoménal, qui se diffusera à plus de 2 millions avec des traductions dans le monde. Les fondements du christianisme, qui a aussi été traduit en français. Et on l'invite de plus en plus, tellement que finalement, en 1975, d'après les sources les plus fiables, parce que j'ai lu aussi 70 dans un autre texte, mais il devient recteur émérite. On le soulage de la tâche pastorale, parce qu'il va passer sa vie, il ne s'est pas marié, donc il va passer sa vie en voyage, faire des réunions dans tous les pays de la terre, pratiquement, mais en gardant toujours cette paroisse aux sources comme base. Il en restera le recteur émérite, honoraire, et avec un soutien, et avec le petit appartement qu'il a eu depuis le début, qui appartient à cette paroisse, là où j'ai été aussi, vivant d'ailleurs de manière assez humble. Il s'est intéressé depuis les années 60, surtout à cause d'un assistant néo-zélandais qui l'a branché là-dessus. Il s'est intéressé aux problèmes sociaux pour l'application de l'évangile et les problèmes spécialement de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui les pays du Sud. Il est devenu, dans le monde évangélique aussi, un avocat des intérêts de ces pays du Sud. Ça a été une note marquée de son ministère. Alors, rôle mondial, il a, comme Billy Graham, mais très, très différemment, joué un rôle mondial avec toutes les réunions qu'il a faites ici, là, et les congrès dont je vous ai parlé. Il est à Berlin, il est le co-organisateur de Lausanne, c'est lui qui rédige l'engagement de Lausanne, qui concrétise en quelque sorte ce que les participants ont reçu pendant tout le congrès, puis Manille, où d'ailleurs il y a d'ailleurs eu quelques tensions, je vais en parler dans un instant, le comité de Lausanne, où là, alors spécialement connu, il a été le théologien de ce comité, et pendant longtemps, et aussi, c'est sous son impulsion que s'est créée l'Association européenne de théologiens évangéliques, dont j'étais pas ultérieurement président, mais j'ai fait partie d'un comité de référence depuis le début, parce que la chose s'est décidée lors des rencontres du comité de continuation de Lausanne autour du café, une pause café, avec John Stott. Tous les membres du comité venus d'Europe étaient là et on a décidé qu'il fallait créer quelque chose, une association de théologiens évangéliques en Europe, et avec un premier congrès qui a eu lieu en 75 à Réverlé-les-Bains, le nom de Billy Graham attirant parce que, excusez-moi, le nom de John Stott attirant parce que tout le monde Billy Graham, là n'y était pas. Stop a attiré un bon nombre. Et c'est à partir de ce congrès que cette association, qui existe toujours, donc, le successeur, c'est Pierre Berthoud, comme président actuellement, subsiste jusqu'à nos jours. Ce rôle mondial, il a aussi exercé par, en montrant quand même qu'il y avait des limites à son irénisme et à son accueil. Bien qu'anglicans, ils sont habitués à ouvrir les bras très très larges, c'est une tradition anglicane d'accepter d'être avec tous, il n'a pas été si approbateur du mouvement charismatique. Et il y a eu une tension, il avait un assistant à All Souls, Michael Harper, et qui est charismatique. Johnson n'a pas tellement aimé ça. Et Michael Harper l'a quitté en 84 et a devenu un des leaders du mouvement charismatique en Grande-Bretagne. John Stott à Manille a eu vraiment cette intention. Manille, finalement, il y a eu une réconciliation suffisante, mais d'après ce qu'on m'a raconté, parce que là, je n'ai pas été à Manille, dans le congrès de Manille, vraiment, les charismatiques poussaient très fort, et les évangéliques plus classiques ne voulaient pas se laisser imposer des choses qui ne l'intéressaient pas, et ça a été très un peu dur, hein, à un moment donné. Quant au mouvement œcuménique, dont je vous ai dit qu'il participait, mais comme parole d'affirmation, celui qui a porté une parole d'affirmation évangélique, tout spécialement dans la grande assemblée générale du Conseil œcuménique à Nairobi. Là, il a tenu tête au ténor du mouvement œcuménique avec une affirmation évangélique très ferme. Et je crois que c'est à cette occasion qu'il a dit une image que j'aime beaucoup. Mais le Conseil œcuménique, il recourt à l'écriture un peu comme un ivrogne recourt au réverbère, pour s'appuyer dessus, mais pas pour se laisser éclairer par lui. Alors, quelques traits, saillants. Bon. Je pense que ce qui était vraiment incroyable chez Johnston, c'était sa capacité de digestion de données, de mise au clair, anglais, alors, magnifique, hein, très très distingué, de mise au clair des thèmes qui avaient été abordés, d'ordonnancement des choses qui avaient été dites. Dans le comité de Lausanne, pratiquement, c'est toujours lui qui prenait sur lui de travailler pendant la nuit ensuite pour faire un compte-rendu, pour faire une déclaration. C'était le rédacteur par excellence et qui acceptait ce rôle et qui jouait, bien sûr, une influence très forte à cet égard. Et c'est ainsi que, aussi, il travaille avec l'écriture, éclaircissant le sens des textes de manière remarquable, mettant tout en ordre, même d'un texte qui paraît un peu compliqué. C'était vraiment un don très remarquable. Alors, il y a aussi la ténacité, que certains ont été jusqu'à qualifier d'obstination. Il pouvait être très têtu. Je l'ai vu, mais dans la rencontre de Mexico, il y a eu un moment de tension entre les Américains et même Billy Graham. Billy Graham, ensuite, finalement, s'est rangé du côté de John Stott. Et John Stott et les Européens, c'était plutôt du côté de John Stott. Donc, ténacité et discipline. Les deux traits sont ensemble. Je trouve ça délicieux, je l'imagine tout à fait. Hein. L'ayant connu, à Cambridge, il agaçait beaucoup ses camarades du groupe biblique, parce que le soir, après la réunion, à 10h, je ne me rappelle plus si c'est 10h exactement, à 10h, il partait se coucher. Discipline de vie. Il refusait, vous savez, on reste ensemble, on bavarde, etc. Ténacité. Je l'ai vu moi-même j'ai vu là sa nervosité. On est allés ensemble, on est à un concert, et son assistant et la femme de son assistant devaient nous rejoindre. Et ils étaient un peu en retard. Et je voyais, John Stott n'aimait pas ça, du retard de la part de son assistant. Vous voyez le genre de comportement qui va avec cette discipline personnelle. Alors, je suis arrivé aux leçons à tirer. Dieu utilise les dons qu'il a fait comme créateur, mais il faut travailler, et travailler parfois très dur, comme c'était tout spécialement le cas pour Billy Graham, et je pense aussi pour John Stott, pour mettre en valeur les dons qu'il a fait. Deuxième leçon, Dieu bénit l'intransigeance sur l'essentiel. Et Billy Graham et John Stott n'ont pas fléchi sur la doctrine de l'Écriture, malgré les pressions, ni sur le sens de la croix, comme expiation substitutive. Très très fort, l'un et l'autre. Malgré tous leurs dons et leur lucidité, cependant, moi je ne peux pas les suivre sur certains points de doctrine. Ce qui vous rappelle, je n'atteins pas la perfection, personne de nous, en cette vie. Billy Graham, alors il n'avait pas fait beaucoup de théologie, c'est vrai, mais il a une note qu'on peut appeler arminienne dans sa prédication. Il suggère souvent que Dieu a fait les 95% du trajet, mais qu'à l'homme de faire 5%, sans donner tout son poids au fait que même la foi nous est donnée par Dieu. Donc là, puis son ouverture écuménique peut-être, moi j'y vois une vocation spéciale, mais je ne pense pas que nous devrions limiter dans cette ouverture si large qu'il a pratiquée. John Stott, lui, il a une doctrine de la grâce de Dieu que je peux entièrement suivre, adopter à sa suite, mais d'une part, il est anglican, il a gardé le baptême des petits-enfants, ce que nous pouvons déplorer, et puis d'autre part, c'est Bache qui lui a appliqué cela. Il n'a pas maintenu ferme la doctrine des peines éternelles pour les impénitents. Alors, il n'a pas voulu absolument affirmer l'annihilationnisme. Il le considère comme l'option, l'attire, mais il a dit quand même qu'il ne se décidait pas absolument. Mais là, il y a une faiblesse qui a été fortement discutée. Donc, même ces deux grands hommes de Dieu ne sont pas, me semble-t-il, à suivre intégralement. Et les deux, sans doute, étaient prêts à le dire. Il y a aussi une modestie, je pourrais citer des détails pour montrer celle de John Stott, après avoir parlé de celle de Billy Graham. L'un et l'autre, si célèbres, sont restés très simples. Voilà. Merci d'avoir. Il nous faut arrêter, hein, puisque j'ai dépassé mon temps, j'ai beau.